Donc on a vu la première condition, parmi les conditions de la prière, qui était de kholu al-waqt, qui était la prière en son heure. Tu peux fermer la porte. De kholu waqtiha, qui était la prière en son heure. Et on avait cité le verset où Allah Azza wa Jalla dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta ». Certes, la prière a été prescrite pour les croyants à des temps fixés. La deuxième condition, donc là on prend dans l'ordre, si l'heure de la prière n'est pas encore rentrée, même si tu as les ablutions, même si tu es couvert, même si tu es en direction de la Qibla, même si, ta prière ne sera pas valide. Même si tu as l'intention, ta prière ne sera pas valide. Donc c'est pour cela, retenez la première des conditions, l'ordre il est important. Première des conditions, de khulu waqtiha. Non, première des chartes, de khul al-waqt. La deuxième des conditions, satru al-awra. Satru al-awra, le fait de couvrir sa nudité. Le fait de couvrir sa nudité. Donc parmi les conditions de la prière, il y a le fait que ta nudité soit couverte. Il y a le fait que ta nudité soit couverte. Donc, qu'est-ce qui doit être couvert? C'est ce qu'Allah Azza wa Jal t'a rendu obligatoire de couvrir, et ce qui est détestable de faire voir. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ô enfant d'Adam, mettez vos parures inda kulli masjid, ici yani à partir de chaque prière. Ô enfant d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure. D'accord, portez votre parure. Donc ici, el masjid, c'est à la fois la prière et c'est à la fois l'endroit où on prie. D'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La yaqbalu Allah salata ha'idin illa bi khimar ». Allah azza wa jal n'accepte pas la prière yani d'une femme pubère. Le ha'id ici, bima'an al-balir. D'accord. Allah azza wa jal n'accepte pas, parce que sinon on peut mal comprendre. Parce que le terme ici, c'est le ha'id, celle qui a ses menstrues. Mais ici, celle qui a ses menstrues, ça ne veut pas dire, dans tous les cas, celle qui a ses menstrues, même si elle a le khimar, elle va. C'est pas parce qu'elle a mis le khimar qu'elle prie. Non, pas mal comprendre. Ici, le ha'id, ici, bima'an al-balir. D'accord. Donc Allah azza wa jal n'accepte pas la prière d'une femme pubère sans qu'elle n'ait son khimar. Sans qu'elle n'ait son khimar. Et Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit, les savants sont unanimes sur le fait que la prière n'est pas valable pour celui qui a délaissé les habits. Et malheureusement, c'était une coutume des mouchrikoun, des associateurs au temps du prophète, c'est qu'eux, ils priaient et ils faisaient le tawaf totalement nus. Totalement nus. Pourquoi? Parce qu'il disait, nos habits avec lesquels on commet des péchés ne sont pas purs, donc on ne prie pas avec ces habits-là. Donc ils enlevaient leurs habits pour prier. Donc ils étaient totalement nus, au niveau de la Kaaba, dans leurs prières, etc. Donc ici, lorsque tu pries, tu te dois d'être habillé convenablement. Tu te dois d'être habillé convenablement et de couvrir ta nudité. Et ici, comment Non, j'ai pas fini la parole d'Ibn Abd al-Barr. Il dit "Ajma'u 'ala fasadi salati man taraka thawba wa huwa qadir 'ala al-istitar bih wa salla wa salla 'uryanan." Il dit les savants sont unanimes sur le fait que la prière de celui qui a délaissé ses habits, alors qu'il avait la capacité de s'habiller et de se couvrir, il avait la capacité de se couvrir, sa prière est nulle. Donc celui qui prie nu, etc., sa prière est nulle. Et il n'y a aucune divergence quant au fait, qu'il y ait obligé pour l'homme ou la femme de couvrir sa nudité en présence des gens et dans la prière. D'accord ? Donc la nudité de l'homme qui va du genou au nombril. Donc ça, quand tu es entre frères, etc., cette nudité est obligée d'être respectée. Que ce soit pour le sport, que ce soit pour quand on est dans une chambre d'hôtel, toutes ces choses-là, en Umra, en Hajj, etc., quand tu voyages, tu es obligé de respecter ça. Non, parce
que c'est pas un truc très serré aussi.
Non, c'est la même chose.
Si la,
exactement. Le fait de découvrir sa nudité, c'est le fait de mettre des choses larges. Exactement. C'est-à-dire que si tu vas pas te mettre, même entre hommes, avec des choses tellement serrées, c'est comme si que. D'accord, donc là, c'est.
Une erreur.
Exactement. C'est malheureusement des choses qui sont répandues. Et les femmes entre elles également doivent respecter cette nudité. Et pour certains savants, la nudité est comme l'homme. Et pour d'autres savants, elle va du haut de la poitrine jusqu'au haut des chevilles. C'est-à-dire qu'entre elles, elle reste comme ceci. Et certains savants, et c'est comme ici Cheikh Fawzan dit, c'est l'avis le plus authentique, sont d'avis que cette nudité, même quand tu es tout seul, tu ne dois pas la dévoiler. C'est-à-dire que le seul moment où tu as le droit de dévoiler ta nudité, c'est en compagnie de ton épouse. Mais même quand tu es seul, tu ne dévoiles pas cette nudité. Et ça par rapport au hadith de Muawiya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Ihfaz awratak illa min zawjatik » Préserve ta nudité, sauf en présence de ton épouse. « Aw ma malakat yaminuk » ou de celle dont tu as les esclaves dont tu as la propriété.
«
Qal qultu fa idha kan al qawm ba'dahum fi ba'd » Il dit « J'ai dit » et lorsque les gens sont entre eux. Il a dit فإن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. Si tu es dans la possibilité que personne ne te voit, fais en sorte que personne ne te voit. قال قلت et j'ai dit فإذا كان أحدنا خاليا et lorsque l'un d'entre nous est seul. قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. Allah Azza wa Jal est plus en droit qu'on soit pudique avec lui que l'on soit envers les gens. Et c'est pour cela qu'il est rapporté que beaucoup parmi les pieux prédécesseurs, même quand ils se lavaient habillés, avec un minimum. Bien que certains savants savaient qu'il n'y a pas de mal à se laver nu, etc. Mais la meilleure des choses, c'est de se couvrir un minimum par rapport à cette pudeur que l'on doit avoir envers Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, quand on réfléchit et on médite sur le Coran, comment Allah Azza wa Jal il a appelé le dévoilement de la nudité? Allah Azza wa Jal il a nommé le fahisha. Allah Azza wa Jal il a nommé cela fahisha. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit aux mécréants, wa idha fa'alu fahishatan قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. Subhanallah, en fait les versets juste avant le verset qu'on a cité tout à l'heure, ô enfant d'Adam, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ô fils d'Adam, dans chaque lieu de salat portez vos parures. 4 ou 5 versets avant, le verset 26, Allah Azza wa Jalla dit, ô enfant d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan, yuwari sawatikum warisha. Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. Wa libasu taqwa dhalika khayr. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Cela est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'ils se rappellent. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit: Ya bani Adam, ô enfant d'Adam, que le shaytan ne vous tente point comme il l'a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Chauve. Et on verra après que le fait de se dévoiler, de se découvrir, ça fait partie des ruses de Shaitan. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne vous les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. Et ensuite, donc, Allah Azza wa Jal, dans ce siyar, dans ce contexte, il s'adresse à qui? À ceux qui ne croient pas, aux mécréants. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit? Et quand ceux qui commettent une turpitude disent... Et ici, la turpitude, c'est quoi? C'est qu'ils priaient et qu'ils faisaient le tawaf nu. Donc Allah Azza wa Jal, il a appelé cela une turpitude. C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dit non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas. Donc Allah Azza wa Jal, il a nommé le fait de se déshabiller, de se dévoiler, de se dénuder. Comment? Comme étant al-fahisha, une turpitude. Puisqu'il faisait le tawaf nu et il disait que cela faisait partie de la religion. Et également, le fait de dévoiler sa nudité et de regarder la nudité, cela entraîne un mal énorme. Le fait de regarder la nudité de quelqu'un, ça entraîne un mal énorme. Et c'est pas pour rien que dès que tu allumes la télé, les gens sont nus. Tu regardes une pub pour un yaourt, là, pour une paire de chaussettes, même pour des habits, les gens sont nus. On va comprendre. Chauve, subhanallah al-azim. Pour rien. Pourquoi? Parce que le fait que l'être humain, il regarde cette nudité, ça crée en lui une envie de mauvaises choses. Automatiquement. Ça, yani, c'est une porte énorme qui mène vers le mal, qui mène vers la turpitude. Également, le fait de dévoiler les nudités, ça vient détruire totalement le bon comportement. Ça détruit l'akhlaq. Ça détruit la pudeur, ça détruit... tous les bons comportements que la personne doit avoir, elles sont détruites à partir de cela. Et combien de sociétés ont été perdues, ont été détruites, les comportements ont été détruits à cause de cela. Parce que ces mauvaises choses, cette nudité, etc., a été dévoilée, a été... une tacharat, elle a été... Comment on dit, Tacharat? Elle a été propagée, pardon, d'accord? Cette nudité a été propagée, ça a créé une des sociétés entières, les comportements, ils ont changé. Et tu peux le voir, même rien qu'en France. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les comportements qu'il y avait en ce temps-là, la nudité, c'était pas connu. C'était terrible, c'était grave. Chez les musulmans comme chez les non-musulmans. Même chez eux. C'est ce que dire, vraiment. Exactement. C'était vraiment, voilà, ils étaient voilés, ils étaient couverts, ils allaient se baigner, exactement. Et en quelques années, et ça fait partie des ruses des ennemis d'Allah Azza wa Jal, de toute façon, ça a été ça. Parmi les ennemis d'Allah, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, enlever le hijab des femmes musulmanes, et cacher le Coran, étouffer le Coran. Si vous arrivez à faire ces deux choses-là, c'est bon, vous avez égaré les musulmans. Chose, subhanallah al-azim. Donc, on voit que il y a eu énormément, et il continue à avoir énormément de mal dans la société et dans les sociétés. Et la cause, c'est quoi? Adam satr al-awra. Le fait que la nudité n'est pas couverte. Alors que le contraire est vrai. Celui qui couvre sa nudité et le fait de couvrir sa nudité, eh ben qu'est-ce que ça vient? Ça vient automatiquement préserver les bons comportements. Cette pudeur, etc. Quand la personne se couvre, ça vient préserver cela. Et c'est pour cela que Shaitan, dans les versets que nous avons cités avant, il fait tout afin que les enfants d'Adam découvrent leur nudité. C'est vraiment une chose sur laquelle Shaitan donne de la force. Dans le verset, Ya bani Adam, la yaftinannakumu al-shaytan. Aux enfants d'Adam, que le shaitan ne vous tente pas. Que le shaitan ne vous tente pas. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. Comme il l'a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Sauf. Donc le fait de se dévêtir, cela fait partie des grandes ruses de Shaitan. Des grandes ruses de Shaitan dans lesquelles sont tombées énormément de sociétés aujourd'hui. Énormément de pays, énormément de sociétés sont tombées dans cette ruse. Et le pire de tout ça, c'est que le fait de se dévêtir, de se dénuder, ils ont appelé ça la liberté. Ils ont appelé ça la liberté. Ils ont appelé ça le dévergondage des femmes, la liberté des femmes, l'émancipation, l'avancement. Alors que subhanallah, des femmes qui se dénudent devant des hommes. Et le pire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont même plus cette honte. C'est devenu normal. Elles sortent nues, parce qu'elles sont nues, tout en étant habillées. Ce qui fait partie des grands signes de la fin, ou des signes de la fin du monde. Sans ressentir aucune honte, aucune gêne, aucune pudeur.
Au contraire.
Wallahu musta'an. Non. Donc c'est pour cela que le musulman doit craindre Allah Azza wa Jal dans cela et doit couvrir et doit préserver sa nudité afin que sa nudité ne soit pas visible auprès de tous. Donc le fait de s'habiller et de se couvrir, c'est quelque chose qui est demandé, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et donc on a cité la délimitation de la aura, de la nudité par rapport aux hommes, elle va du genou jusqu'au nombril. Mina surra ila rukba. Elle va du genou jusqu'au nombril. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu an, la tubriz fakhidhak. Ne dévoile pas ta cuisse. Wa la tanzur ila fakhidh hayyin aw mayyit. Et ne regarde pas la cuisse d'un vivant comme d'un mort. Voilà, tanzur ila fakhidh hayyin ila fakhidh hayyin aw mayyit. Ne dévoile pas, ne regarde pas la cuisse, yani la nudité d'un mort comme d'un vivant. Et dans un autre hadith, ghatti fakhidhak. Recouvre ta cuisse, fa innal fakhidh awra, car la cuisse fait partie de la nudité. Et avec tout cela, comme il dit Cheikh Fawzan, wa ma'a hadha kullih, nara ma'a al-asaf al-shadid kathiran min ar-rijal 'indama yuzawiluna al-al'ab yakshifuna afkhadhahum wa la yughattuna illa al-awra al-mughalladha. Il dit, et malheureusement on trouve qu'aujourd'hui, avec, et cela c'est quelque chose qui nous attriste, beaucoup d'hommes qui, lorsqu'ils font du sport, lorsqu'ils s'amusent, ils dévoilent leur nudité, ils dévoilent leurs cuisses, ils ne couvrent rien hormis ce qu'on appelle l'aura mughalladha, la grande nudité qui est, hormis les parties intimes, ils ne couvrent rien. Regarde les boxeurs. Les boxeurs, un petit short et rien. Les lutteurs, alors là on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Le football. Tu vois, allez, regarde au jour d'aujourd'hui. Dans quoi nous on met nos enfants? Dans quoi on éduque nos enfants? Et ça c'est important. Il n'y a rien d'obligatoire dans le fait de faire un sport. Au jour d'aujourd'hui, faire un sport, c'est devenu quelque chose de vital. Tu fais pas de sport, tu tombes à la limite ou tu... Subhanallah. Wallah, celui qui suit la sunna, il n'y a même pas besoin de faire de sport. Tu marches en direction de la mosquée. Subhanallah al-azim. Non mais, réellement, celui qui suit la sunna, il n'y a pas besoin. Tu fais attention à ton alimentation, un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau, un tiers pour l'air, tu marches en direction de la mosquée, les allers-retours en direction de la mosquée, tu pries la nuit, tu jeûnes, les lundis, les jeudis, subhanallah, toutes ces choses-là, ça te préserve ta santé. Le but, c'est l'adoration, bien sûr, mais parmi les sagesses de cela, c'est que c'est un bienfait pour ta santé. Mais aller faire un sport, c'est moubah. Faire un sport, c'est ni recommandé, ni détestable. C'est autorisé. Donc, quelque chose qui est autorisé, qui te fait rater tes prières, qui te fait mélanger avec des femmes, parce que personne n'en parle, mais c'est important de parler du basic fit. Tout le monde, c'est tous les frères qui sont inscrits dans les basic fit. Alors, j'ai vu un basic fit que pour les femmes, mais j'ai pas vu un basic fit que pour les hommes. Tu vois ce que je veux dire?
C'est de la discrimination, comme il
dit. Non, mais pour. Subhanallah. Et que beaucoup, ils sont dans les basic fit des 2 heures, des 3 heures, des 4 heures. Subhanallah al-Azim. Avec des jarecs, si on parlerait que des hommes qui y sont. Que des hommes qui y sont qui ne couvrent pas leur nudité. Que dire des femmes qui y sont et qui ne couvrent pas leur nudité. Donc ici, c'est des choses où le musulman doit craindre Allah Azza wa Jal dans cela. Et notamment dans le sport. Le sport, c'est une porte qui est moubaha, qui est autorisée, mais par laquelle on peut s'égarer facilement. Que ce soit dans les mauvais comportements, que ce soit dans le fait de se dénuder, dans le fait d'être dans les cabines de douche avec, et ça, c'est des choses graves sur lesquelles même nos enfants se doivent les éduquer. Nos enfants ne les met pas dans n'importe quel sport. C'est pas, faut obligatoirement leur mettre un sport, alors tu vas leur mettre dans un sport où il y a des gros mots, dans un sport où tu sais même pas ça va être qui va l'éduquer, qui va l'entraîner, dans un sport où on frappe au visage, dans un sport où il y a de la violence, où ça crée de la haine, de l'animosité. Subhanallah. C'est pas ça qui est demandé. Donc on doit faire attention dans quoi on laisse nos enfants. Et même, il y a même des sports, c'est encore plus grave. Les sports, tous les arts martiaux. Les sports où tu dois faire quoi comme salutation? Un rukou'. C'est un rukou'. C'est du shirk. Alors là, c'est la pire des choses que tu peux faire, c'est ça. C'est mettre ton enfant dans un sport où il doit saluer, il doit faire un rukou'. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar au Kabir. Comment tu peux enseigner à tes enfants de faire un rukou'? Non, mais c'est la salutation du taekwondo, là du judo, là du karaté, ou je sais pas. Dans quel sport ils font ces salutations-là? Dans à peu près tous les arts martiaux. Mais c'est un rukou'. Tu regardes comment la salutation, c'est quoi? Une inclinaison. Ce que nous on fait dans nos prières en disant Subhan Rabbi al-Azim, c'est un acte qui se fait que pour Allah Azza wa Jal. Si tu dirais à ces gens-là, ben pour saluer, on fait un soujoud, ils accepteraient ou pas? Non. Ben c'est quoi la différence entre le rukou' et le soujoud? Subhanallah. Les deux, ils sont spécifiques pour Allah Azza wa Jal. C'est pour aucun, pour le prophète alayhi sallam, les compagnons ne faisaient pas de rukou' pour le saluer. Comment devant un entraîneur, tu vas lui faire un rukou' pour le saluer? Non. Ou un adversaire, tu vas le... Non. Également, ceux qui font l'exemple, la boxe, le Muay Thai, la boxe Thai. Il y a un rite à faire avant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ils mettent une musique, avec une musique stressante, là. Et ils font un rite. Ils tournent. Et ça, c'est religieux. Ça, c'est du shirk. Ça, c'est des... À la base, c'est quelque chose d'incantation. Ils mettent, même quand tu regardes les boxeurs de Muay Thai, ils mettent des trucs ici. T'as vu, ils mettent des trucs à leur bras. Tout ça, c'est une partie des actes de la Jahiliya. Un bracelet à leur bras, des ceintures, toutes des choses, ça rentre dans le shirk. Donc regarde, en fait, tous ces sports-là, et tu vas dire aux parents, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu le mets? Ah, c'est pour que mon enfant apprenne à se défendre. Yahé, subhanallah. Meilleur moyen pour apprendre à ton enfant à se défendre, c'est ce lien qu'il va avoir avec Allah Azza wa Jalla. Il sort de chez lui, il dit cette dua. Il sera protégé par les anges, il n'a même pas besoin de se défendre. Allah Azza wa Jalla lui envoie des anges qui le défendent tout seul. Chose, halal, amen. Donc ici, moi qui travaille avec les enfants, je vois beaucoup d'enfants qui sont touchés par ces sports. C'est pour cela qu'on se permet de donner ces quelques conseils. Wallahu ta'ala a'lam ala hadhihi al-ashiya. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant, mais le musulman doit craindre Allah Azza wa Jal dans l'éducation de ses enfants. Ensuite, la femme, comme cela est l'avis d'une partie des savants, c'est que la femme entière est une nudité. La femme entière est une nudité. Donc là, les savants divergent. Certains ont dit qu'elle entière, c'était une nudité. Donc l'obligation de rabattre le khimar, de se couvrir totalement. Et d'autres savants sont d'avis que le visage et les mains sont autorisés à être découverts. Dans tous les cas, on a dit le visage et les mains. Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes, les pieds, ils sont découverts, les pantalons, ils sont serrés, donc toutes ces formes-là sont découvertes. Et ça fait partie des grandes erreurs. Ça fait partie des grandes erreurs. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler la description du hijab shara'i, du voile islamique.
C'est très très dur de pas tourner la tête.
Je comprenais pas. Non, mais c'est le fitna. C'est exactement cette tentation. C'est pour cela que c'est important. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait un livre énorme sur le hijab de la femme musulmane. Et notamment, il dit, rahimahullah ta'ala, il dit parmi les conditions du voile, parce que généralement le voile, pour eux, il cache la tête, mais pas du tout. Les conditions du voile. La première, c'est qu'il doit tout couvrir tout le corps. Il doit couvrir tout le corps, sauf les parties exclues. Sauf les parties exclues, donc le visage et les mains. Donc il dit, et il cite le verset 59 de Surat Al-Ahzab, de Surat numéro 33. Où Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhan nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ce premier verset indique clairement la nécessité de couvrir les organes qui portent la parure et de n'en montrer aucun devant les étrangers. Et s'ils apparaissent de façon inintentionnelle, il faut s'empresser de les couvrir. Ensuite, il cite la parole d'Ibn Kathir dans le tafsir de ce verset. Il dit, cela signifie qu'elles ne doivent pas montrer leur parure devant les étrangers, sauf ce qu'il n'est pas possible de cacher. Sauf ce qu'il n'est pas possible de cacher. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, c'est comme un manteau ou d'autres habits à la manière dont s'habillaient les femmes des Arabes. Elles portaient des écharpes sur leurs vêtements. Et ce qui apparaît inclut aussi les extrémités inférieures des vêtements. Donc il y a des choses qui ne sont pas, possibles à cacher des fois quand elle va marcher ou autre, mais dès qu'il y a des choses qui sont vues, etc., elle se couvre. Également, la deuxième des conditions, c'est que le vêtement en lui-même ne doit pas constituer une parure. Il ne faut pas que le vêtement en lui-même, il est attirant. Il en constitue une parure, puisqu'Allah Azza wa Jalla dit qu'elle ne fasse pas apparaître leur parure. Et ici, s'il a été interdit qu'elle ne fasse apparaître leur beauté, etc., il ne faut pas que son vêtement attire l'œil. Il ne faut pas que son vêtement... Donc, il n'y a pas de couleur spécifique pour la femme. Simplement, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est attirant, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith énorme, ne t'interroge pas à propos de trois personnes. Ne pose même pas de questions à propos de trois personnes. Un homme qui a quitté la communauté et a désobéi à son imam, à son gouverneur, et est mort rebelle. Donc celui-là ne t'interroge même pas à son sujet. Deuxième, un esclave ou une esclave qui meurt en fuite. Et la troisième des personnes est une femme dont le mari s'est absenté. Après lui avoir assuré le nécessaire en fait de provision, donc le mari est parti, il a voyagé, il lui a mis de quoi subvenir à ses besoins, et malgré cela, elle s'exhibe en public pendant son absence. Ne t'interroge pas à propos de cela. Ne t'interroge pas à propos de cela. La troisième des conditions, c'est que l'habit doit être épais. L'habit doit être épais. C'est-à-dire qu'il doit cacher le corps. S'il n'est pas épais, automatiquement, les formes vont être, elles vont être apparentes. Que dire des femmes qui mettent des vêtements transparents? Elles font qu'aggraver leur situation. Et elles font qu'aggraver la tentation et cette tentation et cette fitna. Et cela est venu aussi dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux catégories d'habitants de l'enfer. Où le prophète alayhi wa sallam dit Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Deux catégories. Il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas vus. Il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas vus. Des gens qui ont avec eux des fouets, comme des queues de vache avec lesquelles ils frappent les gens. Alors, est-ce qu'on peut trouver ici c'est quoi? Regarde au jour d'aujourd'hui là, les policiers. Avec des bâtons, ils frappent tout le monde. Chauffe, ils arrivent, ils chargent. Chauffe, ce qui s'est apparu dans la plupart des polices dans les pays, des policiers injustes. On ne parle pas d'un policier qui est juste. Un policier qui est juste, c'est louable, c'est respectable. D'accord? Par contre, ceux qui sont injustes, qui viennent et qui frappent tout le monde, et dans certains pays, les policiers, ils font subir énormes injustices aux gens. Mais regarde, ils doivent craindre Allah Azza wa Jalla dans cela. Parce qu'ils font, celui qui est injuste dans cela, il fait partie des catégories de l'enfer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu. La deuxième catégorie, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi wa sallam? Nisa'un, des femmes. Kasiyat, ariyat, mumilat, ma'ilat. Des femmes. Elles sont nues malgré qu'elles soient habillées. Elles sont nues malgré qu'elles soient habillées. Soit parce qu'elles portent des vêtements. Donc, il dit, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, des vêtements habillés, mais qui sont nus. Donc ici, soit parce qu'elles portent des vêtements dont on voit la forme du cou, du corps, on voit la forme des membres, ou soit des vêtements qui sont trop courts. Et elles laissent apparaître ce qui devait être caché, comme le haut de la poitrine, les épaules, les avant-bras, le bas des jambes, etc. Et ça, c'est devenu quelque chose de normal. Quelque chose de normal dans certains pays de nos jours et années. C'est devenu quelque chose de normal. Nous, chez nous, c'est quelque chose de normal. Eh bien, ça fait partie des catégories des gens de l'enfer. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'ils font pencher les gens et qui elles-mêmes penchent. C'est-à-dire, elles penchent vers la désobéissance. Et lorsque les gens les voient, eh ben eux aussi penchent vers la désobéissance. Donc regardez la fitna dans laquelle elles sont. Leurs têtes sont comme des bosses de chameau. Leurs têtes sont comme des bosses de chameau penchées. Et si elles grossissent leurs cheveux, Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elles grossissent leur tête avec leurs cheveux, ou certaines même se rajoutent des cheveux. Et ça, ça a été interdit. Ça a été interdit de rajouter les cheveux. Donc leurs têtes sont comme des bosses de chameau penchées. Elles n'entreront pas au paradis. Écoute ce qu'il dit le prophète, alayhi salat wa salam, « La yadkhulna al-jannah, wa la yajidna rihaha. » Elles n'entreront pas au paradis et elles n'en sentiront pas l'odeur. Ensuite, le prophète s'est dit, « Wa inna rihaha la tujadu min masirat kada wa kada. » Alors que son odeur, alors que l'odeur du paradis se sent d'une durée de ceci et de ceci. Yani l'odeur du paradis, pour ne pas la sentir, c'est-à-dire que vraiment Allah Azza wa Jal t'aura éloigné du paradis. Subhanallah al-Azim. Donc ici, et ça aussi, on éduque nos filles, nos épouses sur cela. Et Allah, on ne doit rien lâcher dans cela. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et on ne doit pas être laxiste dans cela. Bien au contraire. Nos filles, dès le plus jeune âge, on les éduque sur le fait d'être pudiques, sur le fait de ne pas faire montrer de leur beauté et leurs atouts, toutes ces choses-là. Et on se doit de ne rien laisser de nos épouses. Aucune faille, rien. Tu ne laisses rien. Et subhanallah, je parlais avec un frère il y a quelques temps. Sa fille, elle est en âge de mettre le hijab, elle est adolescente. Et ils ont éduqué leur fille depuis qu'elle est petite sur le hijab. Moi, ça, c'est quelqu'un que je connais très bien. La fille, elle a toujours été habituée sur le hijab quand elle n'était pas obligatoire de le mettre. Arrivée adolescente, ils ont fait la hijra dans un pays où la fille, un pays musulman, où la fille s'est retrouvée dans une classe où c'était la seule à mettre le hijab. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, écoute, tout le monde dit, il se moque de moi, etc. Elle a demandé à son père de l'enlever. Son père, il lui a autorisé. Chauffe. Comment tu peux autoriser une chose qu'Allah Azza wa Jalla lui a interdit? Depuis ce jour-là, il m'a dit, je pleure. C'est fini. C'est fini. J'arrive plus à lui parler du hijab. J'arrive plus à lui parler. Et c'est devenu, c'était à la base ses cheveux. C'est devenu tout. Maintenant, elle s'habille comme les adolescentes. Allahu musta'an. Qui ne craignent pas Allah Azza wa Jalla. Pour te dire, subhanallah. Donc, en tant que parent, wallah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Même ton enfant, il pleure, il fait ce qu'il veut. C'est pas toi. Toi, t'as rien. C'est pas moi qui te l'ai obligé. C'est Allah Azza wa Jalla. Comment tu peux autoriser quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a interdit? Donc, on termine. Sur cela, et on reprendra, Inch'Allah, au prochain cours. Donc, on termine la quatrième des conditions. La quatrième des conditions du hijab. Là, on est toujours dans la deuxième des conditions, d'accord? C'est que le hijab, il doit être ample. Il doit être ample, il ne doit pas être serré de façon à dessiner les contours de son corps. De façon à dessiner les contours de son corps. Car la base de des habits, à la base, c'est quoi? C'est d'éviter la tentation. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de nous habiller. Donc, ces habits doivent être amples. Ils ne doivent pas être serrés, car ils ne vont pas cacher le corps. Et en plus de ça, ça va dessiner les contours. Et aux yeux des étrangers, aux yeux des hommes, ça va paraître encore plus que ça ne l'est en réalité, et ça a une tentation encore plus grave. Et cela, le fait que la femme aime mettre des pantalons serrés ou des choses serrées, qu'elle aime sortir en montrant ses atours, en montrant ses membres, etc., ses formes, pardon, ça, c'est un relève de la perversion.
En plus, c'est complètement à mettre des pantalons serrés.
Exactement. Ça fait partie de la perversion et ça incite. Donc elles sont pervertes, ça incite à la perversion. Elles sont pervertes elles-mêmes et elles incitent d'une façon claire à la perversion. Et Oussama ibn Zayd, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a offert un manteau. qui était épais. C'était un manteau qui venait, un manteau copté, hein, qui faisait d'une manière de comme les coptes. Il dit, je l'ai remis à ma femme. Je l'ai remis à ma femme et elle m'a dit, pourquoi tu ne le portes pas? Pourquoi tu ne le portes pas? Dis-lui de porter un habit en dessous, car je crains qu'il ne dessine les contours de ses os. Je crains qu'il ne dessine les contours de ses os. Donc on voit comment les pieux prédécesseurs aimaient mettre des habits qui ne dessinent pas les contours de ses os, des formes, etc. La cinquième condition du hijab, c'est qu'il ne doit pas être encensé ni parfumé. Il ne doit pas être parfumé. Et ça fait partie des grandes erreurs que les femmes font, c'est qu'elles encensent leurs vêtements ou qu'elles parfument leurs vêtements. Et il y a beaucoup de hadiths qui interdisent à la femme de se parfumer lorsqu'elle sort de chez elle. Parmi ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque fois qu'une femme se parfume et passe à côté d'un homme pour qu'il sente l'odeur de son parfum, elle est considérée comme une fornicatrice. Elle est considérée comme une fornicatrice. Également, un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'une de vous veut se rendre à la mosquée, qu'elle ne s'approche pas d'un parfum. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand une femme s'encense, qu'elle n'assiste pas à la prière qu'elle n'assiste pas à la dernière prière avec nous. Également, il a été rapporté d'Abu Huraira radiallahu anha qu'une femme est passée auprès de lui en dégageant une forte odeur du parfum. Et il lui a dit, ô esclave d'Allah, allez-vous à la mosquée? Elle a dit oui. C'est pour cela que vous êtes parfumée? Elle a dit oui. Il lui a dit, rentrez chez vous, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, toute femme qui se rend à la mosquée en dégageant une forte odeur de parfum n'aura sa prière acceptée par Allah que si elle retourne chez elle et se lave. La seule condition pour qu'Allah accepte sa prière, c'est qu'elle retourne chez elle et qu'elle se lave. Et la cause de l'interdiction, elle est claire. C'est que le fait de sentir le parfum d'une femme, automatiquement, ça pousse au désir. Ça pousse au désir, ça va exciter les hommes, etc. Donc, ces choses-là sont interdites. La sixième condition, c'est que le hijab ne doit pas ressembler à la fois, premièrement, aux habits des hommes. C'est-à-dire que son habit, il ne doit pas ressembler aux habits des hommes, car il y a un hadith qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la femme qui cherche à ressembler aux hommes. Il a maudit la femme qui cherche à ressembler aux hommes dans ses vêtements ou dans toute autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas des nôtres les femmes, ou n'est pas des nôtres les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes, ni les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, il a maudit ceux qui sont efféminés parmi les hommes, et les femmes qui se donnent une allure d'homme. Et il a dit, expulse-les de vos foyers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expulsé un tel, et Omar a expulsé un tel, etc. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Dans un autre hadith, trois personnes n'entreront pas au paradis. Et Allah ne les regardera pas. Ceux qui maltraitent ses pères et mères, la femme qui cherche à ressembler aux hommes et l'homme efféminé. Également, la septième des conditions, c'est qu'il ne doit pas ressembler aux femmes qui ne sont pas musulmanes. Cet habit ne doit pas ressembler aux femmes qui ne sont pas musulmanes, car il est strictement interdit dans notre religion de ressembler aux kuffars. De ressembler aux kuffars, que ce soit dans leurs habits, que ce soit dans leur culte, que ce soit dans leur culture, que ce soit dans leur fête, que ce soit dans leurs propos, que ce soit dans leur tenue. Toutes ces choses qui sont spécifiques aux mécréants, il nous est strictement interdit de leur ressembler. Et ça, c'est une chose, malheureusement, que beaucoup beaucoup de gens sont tombés à cause de leur ignorance, à cause de leur imitation aveugle, à cause du fait de penser que les femmes européennes ou autres sont meilleures que les femmes musulmanes, etc. Ils sont tombés dans cela. Alors qu'Allah, certes, Allah ne change les conditions d'un peuple tant que celui-ci ne changera pas lui-même. La huitième des conditions et la dernière, c'est que ça ne doit pas être trop voyant. D'accord ? Ça ne doit pas être trop voyant. Et allez, tu ne vas pas mettre des habits, même pour l'homme, tu vois, pas être des habits qui sont trop flash, trop voyants. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Quiconque porte ici-bas un vêtement trop voyant, Allah l'habillera d'un habit d'humiliation au jour de la résurrection, puis il sera brûlé. »
Un vêtement tout rouge, c'est parce que c'est...
Le livre, il s'appelle « Hijab al-Mar al-Muslima ». Le vêtement rouge, na'am. Le vêtement rouge, il y a des hadiths qui prouve que le prophète était habillé du rouge. Et d'autres hadiths qui a été interdit de rouge. En fait, ce qui a été interdit, c'est d'être tout rouge. Des vêtements rouges, mais avec d'autres couleurs, c'est autorisé. Mais un habit tout rouge, c'est interdit de porter. Et c'est pour cela que ce livre, donc le titre, c'est Hijab al-Mar al-Muslima. D'accord ? Hijab al-Mar al-Muslima, le voile de la femme musulmane de Sheikh al-Albani, rahimallah. Et lorsqu'on l'a lu, c'est de la page 54 à la page 57. D'accord, donc c'est un livre énorme. Wallahu ta'ala a'lam. Barak lahu fikum. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Prochain cours, inshallah, on reprend. On termine ce passage-là. Et on continue dans les conditions. Jeudi prochain, inshallah, c'est le dernier cours. Ensuite, on reprendra après l'Aïd, inshallah. Barak lahu fikum.